Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, et particulièrement les auditeurs fidèles au libre journal de la liberté de penser. Je suis ravie de vous accueillir pendant une heure et demie où nous allons avoir deux sujets et donc deux invités distincts et passionnants dans chacun dans leur domaine. Le premier invité, Philippe Le Guillou. Monsieur Le Guillou, bonjour, vous êtes bonjour. Avec nous dans les studios, je tiens à le préciser. Et puis en deuxième partie, Olivier Delaferre pour les élections municipales de Versailles. Alors, ce matin, nous parlons d'un poète que l'on croit tous connaître, qui fait partie de notre patrimoine, de notre imaginaire français, et qui pourtant continue de nous échapper. Arthur Rimbaud, c'est un poète fulgurant, un adolescent génial, un fugueur, un trafiquant et beaucoup de silence. Mais si Rimbaud n'était pas seulement un révolté ou un poète maudit, et si son œuvre, brève et brûlante, relevait d'une quête beaucoup plus radicale, une quête spirituelle, une fin de l'absolu, une expérience mystique, mais sans église, sans règles, sans repos. Eh bien, c'est le pari du livre intitulé « Rimbaud, mystique à l'état sauvage », publié par Philippe Le Guillou. Philippe Le Guillou, vous êtes un professeur de lettres, inspecteur général de l'éducation nationale, honoraire, c'est ça, vous me l'avez précisé. Vous êtes écrivain et j'invite nos auditeurs de Radio Courtoisie à aller voir l'ensemble de votre œuvre, puisque vous avez publié plus d'une quarantaine d'ouvrages, de récits, d'essais, qui ont obtenu de nombreux prix, dont le prix Médicis en 97 pour Les Sept Noms du Peintre, paru aux éditions Gallimard. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous avez écrit un livre habité qui ne cherche, à mon sens, mais vous allez peut-être me donner une autre interprétation, ni à expliquer Rimbaud, ni à le récupérer, juste à l'approcher dans ce qu'il a de plus incandescent et de plus dangereux, peut-être, son désir d'infini.
Oui, je suis surtout romancier. Ce sont des fictions que j'ai principalement écrite, mais à côté de ces fictions, j'ai aussi écrit un certain nombre d'essais. J'ai écrit sur Julien Gracq, je pensais à lui d'ailleurs en venant ici tout à l'heure, puisqu'il fut longtemps professeur, enfin sous son nom réel de Louis Poirier, il fut très longtemps professeur d'histoire-géographie au lycée Claude Bernard, juste en face de votre maison. Et donc, voilà, ce livre, c'est une commande qui m'a été faite par un éditeur, Antoine Bélier, pour Des Clés de Bauer, et qui a en quelque sorte eu l'idée d'une collection dans laquelle des écrivains seraient invités à se pencher sur d'autres écrivains et sur le lien que ces écrivains entretenaient avec le Dieu, la foi, la religion catholique. Par exemple, dans cette collection, François Saint-Chéron, qui est un spécialiste de Malraux, a publié un très beau livre sur le lien de Malraux avec le Christ. Et donc ici, voilà, c'était une sorte de commande qui m'était passée et que j'ai tout de suite eu envie d'honorer. Ce n'est pas d'ailleurs l'éditeur qui a eu l'idée de Rimbaud. Il m'a demandé d'imaginer un livre et j'ai tout de suite pensé à Rimbaud parce que, comme vous l'avez dit, c'est le poète absolu, c'est le poète par excellence. C'est une fascination très, très ancienne chez moi. J'ai dû le découvrir à l'adolescence en lisant, comme tout élève de classe de première, je ne sais pas, le bateau ivre, les poèmes de Charleville, etc., le fameux cahier de Douai, les assis, etc., sensations, enfin, ma bohème, tous ces poèmes que les lycéens apprenaient ou lisaient à cette époque, et qu'ils lisent d'ailleurs encore, puisque très récemment, d'ailleurs, le cahier de Douai a été au programme de l'épreuve anticipée de français, donc en classe de première. Et donc voilà, c'est pourtant cette perspective, si vous voulez, que je me suis replongé dans ce livre, avec d'ailleurs un souci primordial qui était de relire les textes. Je crois que voilà, toute mon expérience de professeur de lettres, le premier respect que l'on doit à un écrivain, c'est de lire ses textes, c'est presque de les lire le crayon à la main, de les lire avec minutie, attention. Et évidemment, dans le cas de Rimbaud, c'est un plaisir, c'est une fascination intacte, renouvelée. Et c'est donc dans cet état d'esprit que j'étais lorsque j'ai abordé l'écriture de ce livre. Je ne suis pas non plus trop encombré, si vous voulez, de lecture critique. Je ne suis pas allé... Bon, je connais et je cite d'ailleurs à la fin de l'ouvrage, quelques grands livres, quelques grands textes sur Rimbaud. mais je voulais que ce soit une sorte de démarche, j'oserais presque le mot spirituel, c'est-à-dire que je vienne vers les œuvres sans parti pris, sans vouloir récupérer, sans vouloir, comme on en parlera, sans doute d'autres l'ont fait par le passé, et des plus prestigieux d'ailleurs, c'était vraiment le désir de regarder les textes, de relire les textes, et je crois aussi de retracer l'itinéraire rimbaldien. Certains d'ailleurs disent que c'est un récit, et c'est peut-être plus un récit qu'un essai, ou un essai qui prend la forme d'un récit. Je voulais vraiment me mettre dans les pas d'Arthur Rimbaud, et j'espère que des lecteurs à ma suite et à la suite de Rimbaud se mettront ensuite dans ses pas, parce que il y avait cette volonté finalement de revenir à la personne même, à l'incarnation même de ce jeune homme, de ce garçon frondeur, turbulent, révolté, je ne sais ce qu'il faut dire. Et donc c'est pour cela que j'ai essayé de plonger, d'ailleurs je commence par très biographiquement, par Charleville, la ville de l'enfance et de l'adolescence, pour finir avec Harare, c'est-à-dire l'Afrique et les conditions difficiles, évidemment, de la fin de l'existence du poète, et pour clore avec Marseille, c'est-à-dire le lieu de sa mort en 1891.
Alors, Rimbaud, mystique à l'état sauvage, c'est le sous-titre de votre ouvrage. Pourquoi parler de mystique à propos de Rimbaud? Est-ce que c'est justement pas un peu paradoxal? Vous avez déjà un peu commencé à aborder le sujet dans votre introduction. C'est pas le mot qui nous vient forcément à l'esprit quand on parle de Rimbaud.
Non, alors de toute façon, il y avait déjà la commande, si vous voulez, était de se placer sous l'angle du sacré, du religieux, etc. Donc, mais Rimbaud est le Christ, quand on sait ce qu'il écrit du Christ, quand il le caractérise dans un de ses premiers poèmes, qui dit le Christ éternel voleur des énergies, et quand on se souvient que la légende rapporte qu'il avait écrit sur les murs de Charleville, mère d'adieu, il était évident que je n'allais pas mettre le Christ, etc. Cette formule de mystique à l'état sauvage, je l'emprunte à Paul Claudel, dont la lecture de Rimbaud et la découverte de Rimbaud va avoir des répercussions considérables en lui. J'imagine que nous en parlerons, quand nous en parlerons tout à l'heure. Et il évoque Rimbaud comme un sol saturé, une source qui sourd d'un sol saturé, pour le citer précisément, et c'est à ce moment-là qu'il le qualifie de mystique à l'état sauvage. Un mystique à l'état sauvage, c'est un mystique qui ne s'inféode à aucune église.
Voilà, le terme état sauvage.
Voilà, c'est un mystique qui est à l'état naturel, en quelque sorte jaillissant, premier, primordial, je ne sais ce qu'il faut dire, mais certainement pas un mystique qui va s'encombrer de dogmes, de rites, qui va se livrer à une sorte de cheminement dans le cadre d'une institution. On connaît l'allergie fondamentale de Rimbaud aux institutions, en particulier évidemment à l'Église, à cause de l'éducation qu'il reçoit. Alors
on peut y revenir d'ailleurs, il était fils d'un militaire, fils d'un capitaine de l'armée.
Voilà, le père est absent, le père a disparu, donc Madame Rimbaud élève... La mère Rimbe, c'est comme ça qu'il l'appelle, la Moser. Oui. Elle l'élève et elle est très désireuse, cette femme. Bon, elle est très, très autoritaire, elle est inflexible, elle a un caractère qui est tout sauf souple, manifestement. Mais elle a le désir de donner une bonne éducation à ses enfants, et donc en particulier une éducation chrétienne et même religieuse, puisque les enfants vont être inscrits dans une école catholique. Elle ne veut absolument pas que ses enfants soient, si j'ose dire, contaminés par des enfants qui n'auraient pas les bonnes règles et les bonnes pratiques et les bonnes mœurs. Et Rimbaud est à l'origine un garçon très religieux. On rapporte, certains camarades disent qu'à un moment, il avait vu dans cette institution Rossa, où il était inscrit, des adolescents ou des enfants turbulent avait pris de l'eau bénite dans la chapelle et était en train de s'asperger avec cette eau bénite. Et le jeune Rimbaud, à ce moment-là, s'était interposé, ce qui lui avait valu d'ailleurs d'être traité par l'un de ses camarades, je cite, j'ouvre les guillemets, de sale petit cagot. Et de la même façon, son condisciple au lycée de Charleville, Ernest Delahaye rapporte qu'à la même époque, un peu plus tard, il rêvait de devenir ermite dans une forêt toute proche de Charleville. Donc il baigne dans la Bible à la tranche vert chou apparaît dans ses poèmes, mais ce cocon familial qui est tout sauf un cocon, qui est une sorte de prison sous la loi inflexible de la mer, elle avait, dit-il dans un des poèmes, le bleu regard tiret qui ment. C'est-à-dire, vous imaginez la représentation qu'il a de sa mère, de cette mère rimbe extrêmement autoritaire. Et donc dans cet univers confiné, dans cet univers autoritaire, dans cet univers d'une religion pleine de principes, soucieuse de bienséance, évidemment, ce jeune homme étouffe. Et un de ses grands mots, d'ailleurs, ça va être fuir, le départ, s'en aller. Et d'ailleurs, ça vaut certainement pour Charleville, pour la famille, pour la maison familiale, pour le Creuset mais familial, mais ça vaut aussi pour la ville qui lui semble aussi confinée, mesquine. Il va décrire dans le poème les assis, ces personnages qui sont là et dont il fait des monstres et qui sont des lecteurs de la bibliothèque de Charleville. Il va aussi caricaturer, croquer ces bourgeois qui se promènent, qui sont là sur les allées, pas très loin du kiosque à musique, etc. Et on retrouve d'ailleurs toute une vie provinciale, qui était la vie provinciale de tant d'autres villes d'ailleurs, au XIXe siècle et même au XXe, mais pour lui, c'est véritablement un repoussoir. Il ne supporte pas à la fois cet enfermement, et il s'évade déjà, et ça c'est extrêmement important. Il mesure très jeune, et on est beaucoup, je crois, dans ce cas-là, même s'ils n'avons pas eu des conditions d'éducation aussi autoritaires. Quelque chose qui va jouer un grand rôle dans sa vie, c'est la lecture. Il va lire par exemple Don Quichotte, il va être fasciné par ses romans.
Très tôt, très jeune, il avait des prix, hein. C'est un excellent élève.
Alors c'est un excellent élève, mais il va aussi découvrir donc la valeur de la littérature. Et c'est ça qui est extrêmement important, puisque très vite, il va lire Verlaine, Théodore de Banville, etc. Il va vouloir le Parnasse, il va vouloir, et pour lui d'ailleurs, ce qui est l'incarnation de la littérature, le lieu de la littérature, c'est la capitale, c'est Paris, d'où l'envie de venir à Paris. Mais vous avez raison de dire qu'il est tout à fait brillant, intellectuellement brillant. Et d'ailleurs, alors qu'il est très très jeune, un de ses maîtres dit « c'est un génie, mais ça peut être le génie du bien comme le génie du mal ». Et un autre, je crois d'ailleurs, insiste et dit « tout ça peut tourner très mal ». Donc on sent quand même là, à la fois l'intelligence prodigieuse, mais on sent aussi la violence, la rage, déjà extrêmement destructrice, qu'il y a chez cet adolescent qui est exceptionnel. Et il va y avoir, évidemment, un professeur, Isambard, un jeune professeur qui arrive à Charleville et qui, comme souvent d'ailleurs, les professeurs, va jouer une sorte de rôle de, comment je ne sais que dire, de passeur, d'intercesseur.
Du moins à l'époque.
Du moins à l'époque. Mais il y en a encore aujourd'hui qui sont comme ça. Moi-même, j'ai eu la
chance. Des mentors.
Je crois que j'ai découvert d'ailleurs dans un lycée du Finistère, au milieu des années 70, l'œuvre de Rimbaud grâce à un professeur qui avait comme ça parlé avec passion de Rimbaud. On avait étudié Rimbaud, si vous voulez, dans le cadre de la classe, en respectant évidemment le rite et les codes de l'explication de texte, qui reste le grand exercice de l'enseignement des lettres. Mais j'étais très vite allé voir, j'avais, je crois, feuilleté d'ailleurs le choix de texte que proposait ce qui était à l'époque l'ouvrage en vigueur dans les classes, à savoir le mythique La Gare des Nichards,
voilà,
que j'étais aussi peut-être allé acheter un volume des œuvres, et j'avais commencé à lire Rimbaud à ce moment-là. Et de la même façon, cet Isambard, qui est un jeune professeur de lettres, talentueux, fougueux, va fasciner de certaine manière Rimbaud. On peut imaginer d'ailleurs que la réciproque est vraie et que lui-même est fasciné par l'intelligence exceptionnelle de... Mais il est capable d'écrire des vers latins, il lit le dictionnaire, il connaît la Bible par cœur, au moment de la naissance du prince impérial, il écrit en latin un poème, etc. Donc il est véritablement habité par la chose littéraire, habité par l'écriture, et habité par l'envie d'envie d'écrire.
Alors, est-ce que avec le recul, il y a quelque chose qui vous a semblé insuffisamment dit ou mal compris dans les lectures classiques de Rimbaud ?
Non, je ne crois pas. Tout a été un peu dit, hein, si vous voulez. Moi, je n'avais pas de prétention d'apporter
Ni de préjugés?
Préjugés, ni non plus la prétention d'apporter des choses nouvelles, des révélations.
Mis à part l'angle sous lequel vous le
voilà,
prenez.
Voilà, c'était l'angle qui. Mais je voulais revenir à cette vie. Je crois en particulier, si vous voulez, j'ai toujours été dans à la fois dans mes études et dans mon enseignement ensuite, un peu choqué. Voire agacé par cette tentation, qui était plus qu'une tentation d'ailleurs, qui était une mode, qui était une pratique, et qui consistait à rejeter tout ce qui était biographique. Évidemment, je ne vais pas dire qu'on lit les œuvres des écrivains à l'aune de leur vie, et que le prisme qu'il faille absolument retenir, c'est la biographie. Mais de là, si vous voulez, à faire des textes uniquement un jeu de sonorité, un jeu
une
mécanique de mots, quelque chose que l'on dissèque de manière implacable, glaciale, etc. Et ce qui a existé, bon, on a vu les excès de la linguistique, les excès du structuralisme, et ce que ça a pu donner parfois dans l'enseignement. Je voulais m'inscrire en faux contre cette pratique, contre cette tendance, et revenir à la vie. Alors, pas revenir à la vie en disant, finalement, tout est dans la vie, mais pour un poète qui, finalement, a peu vécu, ou a vécu très peu de temps, a vécu intensément les années où il est sur Terre, mais il a un cheminement très rapide, et une vie à ce point extraordinaire, au sens le plus vrai et le plus fort du terme, je pense qu'il était impératif de revenir à cette vie et de le faire revivre. Alors évidemment, Enid Starkey a publié une énorme biographie de Rimbaud dans laquelle ceux qui s'intéressent à lui trouveront bien plus de choses, puisque mon livre fait un peu plus de 200 pages seulement, et je n'avais pas là non plus l'ambition, évidemment, de rivaliser avec d'autres choses qui avaient été faites. Je ne suis pas authentiquement, universitairement, ce qu'on appellerait un rimbaldien, un spécialiste. Mais j'ai une sorte de fibre rimbaldienne, de ferveur rimbaldienne, et c'est ce que je voulais exprimer dans ce livre. Il y a des livres bien plus universitaires, bien plus éclairants que le mien, je tiens à le dire. Mais il y avait aussi cette fougue que j'essayais de retrouver, comme lorsque je l'avais découvert il y a 50 ans aujourd'hui.
Alors, Rimbaud va quitter Charleville pour Paris. Il va être marqué aussi par resituons aussi dans l'époque, hein, par la Commune, qui va avoir un fort impact sur sa construction d'homme. Rimbaud est très jeune encore, hein, il faut le dire à nos auditeurs. Il quitte Paris, il a quoi, 16 ans?
Oui, mais il quitte toujours très peu. Il quitte pour venir faire quelques séjours, voilà. Et puis il rentre.
De toute façon, on est toujours dans le mouvement.
On est toujours dans le mouvement, absolument. Partir, c'est le mot. Voilà. De toute façon, déjà, avant même de venir à Paris, il se promène beaucoup, il marche beaucoup autour de Charleville. Et s'il déteste la ville, le mouroir, je ne sais comment dire, cette ville étouffante,
ça, c'est la description qu'il en fait.
Enfermée, voilà. Il est beaucoup plus sensible aux paysages alentours.
La Meuse.
Et en particulier aux vallées de la Meuse, de la Semois. Bon, on pense évidemment aux fameux dormeurs d'Urval, que toute une génération d'élèves a appris en classe et récitait. On pense évidemment au magnifique poème qui s'intitule « La rivière de Cassis », et dans lequel on retrouve encore une évocation de ces lieux et de ces paysages, ou à Sensation, ou à Ma Bohème. Rimbaud est un marcheur, c'est quelqu'un qui
marche. Au sommet de vent, on le dira plus tard.
L'homme au sommet de vent, on dira Verlaine, mais c'est quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui aime marcher, c'est quelqu'un qui est un errant, qui ne
c'est justement, pas un contemplatif, c'est quelqu'un
s'oppose qui justement à ce qui s'oppose à l'enfermement qu'un représente pour lui à la fois, on l'a dit, le cercle familial, l'autorité maternelle et la ville de Charleville qui symbolise quand même pour lui l'ennui majeur, l'ennui suprême, l'ennui majuscule. Et donc il marche beaucoup. Et dans cette marche, dans cet élan, ça c'est aussi un terme très très rimbaldien, il y a une sorte de destination qui est Paris, parce que très vite aussi, pour rompre cet ennui de la vie provinciale, il va commencer, par exemple, à échanger de la correspondance avec Banville. C'est-à-dire qu'il va même adresser une peste comme ça d'impudence, d'adresser à ce poète installé, reconnu, publié, il va adresser ses,
à Banville,
ses, hein. premiers, ses premiers textes. Mmh. Et donc, c'est lui qui va d'ailleurs dire, Rimbaud, qui va dire à son professeur de lire Verlaine, qu'il a déjà découvert. Donc, il est véritablement habité par la littérature. Il est à la fois habité par le désir de venir à Paris, parce que le désir de Paris s'oppose en quelque sorte à ce qu'on a dit, à la morne, à la Charles monotonie de la vie en province, mais Paris, c'est pour lui la ville de la littérature, et c'est là évidemment qu'il va, grâce encore à un jeu de rencontres.
Il tape à la porte, hein, il y va.
Ah oui. Il n'a peur de rien, voilà. Si vous voulez. C'est ça qui est assez fascinant. Il n'a peur de rien. Il a des manières assez sauvages,
oui,
pour
reprendre
au titre.
Pas,
ce n'est pas un exemple de vie policée.
Non, ni d'éducation.
Ni d'éducation, ni de bonne éducation, alors qu'il a reçu précisément une éducation très stricte. Mais il est déjà, dans son simple comportement social, il se place déjà sous le registre de la transgression, de l'insolence. Et donc, quand il va débarquer dans la famille Verlaine, qui est une famille bourgeoise, avec de bonnes manières, des manières de table en particulier, une certaine façon de se tenir, de s'exprimer, de s'adresser aux gens.
Verlaine qui est mariée,
et bien c'est pas du
qui
tout...
Qui vit avec sa mère.
Qui vit avec sa femme.
Avec sa femme.
Et donc, et c'est pas du tout ce qu'il va faire. Il va vouloir dynamiter aussi tout cela. Et de la même façon, au dîner des vilains bonshommes, c'est-à-dire quand il va rencontrer les poèmes adulés, mais adulés à distance, et bien il va aussi mal se comporter.
Il n'y a pas d'opération charme, hein, pas de,
non, voilà. Jamais.
Il n'est pas là-dedans.
Jamais.
Il n'est pas dans...
Non. Non, parce
charmer
qu'il
les,
il apparaît même un
auditoire.
Peu, si vous voulez, comme un sauvage, comme quelqu'un d'un peu rustique. Il fume à table, un tabac nauséabond, il ne respecte aucun des codes de la bonne vie en société. On le loge ici et là, il se brouille évidemment avec les personnes qui ont décidé qui se sont risquées à l'héberger. Voilà, Madame Verlaine est absolument horrifiée par le comportement de ce garçon. Il faut bien le reconnaître, il faut bien le dire, très mal élevé.
Oui.
Mais lui n'en a cure et il continue à se tenir, se comporter de la sorte.
Alors, sa rencontre avec Verlaine, ça fait partie de ce que l'on sait. Comment est-ce que vous pourriez définir cette relation au début, hein, de leur relation? Est-ce qu'il y a de la part de Rimbaud une forte admiration de l'œuvre de Verlaine? Est-ce que c'est ce qui va déclencher?
Oui.
Et comment après, peut-être, cela va-t-il s'inverser?
Oui, ils vont vivre une passion. Mm. Et on sait ce que c'est qu'une passion, c'est-à-dire avec des élans, une entente, mais aussi évidemment des orages, des tensions et des brouilles. Mm. Et tout cela ne peut pas être passé sous silence, tout cela ne peut pas être nié, tout cela va exister. Mais le lien, évidemment, il y aura cette dimension d'amitié amoureuse, etc., mais le lien premier, plus fort que tout, c'est la littérature. Et c'est l'admiration que Rimbaud voue aux écrits de Verlaine. Et réciproquement aussi, c'est la fascination que... et d'ailleurs, ça a été étudié, mais quand, par exemple, Verlaine s'essaie à des poèmes nouveaux, les Ariettes oubliées, etc., vont répondre à ces Ariettes oubliées, tous les poèmes de 1872 chez Rimbaud, les poèmes de l'éternité, les poèmes de la soif. Donc il y a une sorte comme ça de dialogue littéraire qui est... Alors évidemment, après aussi...
Il n'y a pas le maître et l'élève, on n'a pas cette impression. Hein.
Non, Rimbaud n'a pas de maître. Rimbaud n'a pas de maître. Et d'ailleurs, c'est un peu fascinant d'ailleurs de voir comment Verlaine, qui est un homme quand même plutôt... quand même beaucoup plus timoré, beaucoup moins aventurier que n'est...
Plus classique.
Plus classique, beaucoup plus convenu. Mm. Et quand il arrive, il est fasciné. Et donc, ils vont l'attendre à la gare avec Germain Nouveau. Il n'est pas... Il se rate, il se manque. L'autre, d'ailleurs, est un peu déçu parce qu'il pense peut-être que finalement, il arrive à Paris et on va déployer le tapis rouge pour l'accueillir. Et ce n'est pas du tout ce qui arrive. Et donc, voilà, tout commence. Mais il y a aussi cette vie aussi d'errance. Ils vont marcher, ils vont aller aussi à Bruxelles, à Londres. Il y a aussi cette volonté toujours de voyager qui est extrêmement importante chez Rimbaud. On dit même, je ne sais plus à quel mois, à quelle année, mais qu'il serait peut-être même venu de Charleville à Paris à pied. C'est vraiment un piéton. D'ailleurs, c'est un motif qui est constant dans ses poèmes. Il aime marcher, il aime traverser la campagne, il aime traverser les paysages, il aime ce qu'il appellera après dans cette maître formule magnifique que j'aime beaucoup, étreindre la réalité rugueuse. Et la première réalité, c'est celle des bois, des vallées, des paysages, qui jouent un rôle important dans à la fois la formation et la vie de Rimbaud.
Donc en septembre 1871, Rimbaud, il a 16 ans, il envoie ses poèmes à Paul Verlaine, qui lui-même déjà reconnu dans le milieu littéraire parisien. Verlaine est frappé par son génie, il répond par cette phrase célèbre « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend ».
Oui, c'est absolument même à la fois magnifique, un peu fou et totalement vertigineux. Mais c'est ça que je disais il y a un instant dans le ciment de cette aventure, le ciment de cette union turbulente, de cette union mouvementée, c'est la littérature. C'est-à-dire que vraiment, et c'est ça, je crois, qui est aussi peut-être à méditer, voyez-vous, aujourd'hui dans notre monde du début du 21e siècle, on aimerait, j'espère que ça existe encore, qu'il y ait des jeunes gens qui, comme cela, écrivent à des écrivains, jettent une sorte de bouteille à la mer et aient envie d'aller les rencontrer parce qu'il y a eu cette fascination, parce qu'il y a eu ce coup de foudre. Mais la fascination première s'inscrit, s'enracine dans le terreau littéraire. C'est la découverte des œuvres, et ce sont des êtres qui sont puissamment, et d'ailleurs à la fois leur œuvre et leur postérité en témoignent, qui sont puissamment habités par la littérature. Et ça, où je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment peut-être j'aime pas ce terme de message, si vous voulez, mais c'est ce que j'aimerais dire à travers ce livre, c'est la fameuse formule de Proust à la fin du temps retrouvé, la vraie vie, la vie vécue, etc., c'est la littérature. Et bien, eux déjà sont en train d'expérimenter cela, la vraie vie, c'est la littérature. Et nous allons évidemment écrire, et ils continuent de travailler tout en marchant, tout en bougeant, tout en étant dans le mouvement, dans l'élan. C'est ça qui est tout à fait superbe
alors,
chez
si
ces poètes.
Alors, si on peut juste terminer là-dessus, sur l'influence littéraire, on peut dire, mais vous apporterez aussi vos amendements s'il y a lieu. Pour Rimbaud, Verlaine va lui ouvrir les portes du milieu symboliste. Il est confronté à un public et à des débats esthétiques. Et puis, cette expérience avec Verlaine va nourrir une saison en enfer, donc 1873, où il règle ses comptes un peu aussi avec cette relation. Pour Verlaine, d'un autre côté, Rimbaud va bouleverser son écriture, il va avoir une influence sur son écriture. On parle du drame de Bruxelles où chacun sait, mais en juillet 1873, enfin le 10 juillet précisément à Bruxelles, Verlaine tire deux coups de revolver sur Rimbaud. Rimbaud est légèrement blessé, Verlaine va faire de la prison, 2 ans de prison. Ça va marquer leur rupture définitive, mais finalement, après la prison, Verlaine se tourne vers une poésie peut-être plus mystique, avec sagesse, normalement, notamment. Et il contribuera plus tard à faire reconnaître, et on va y venir après, c'est lui qui va contribuer, alors que Rimbaud est sur les routes africaines, à publier ses textes. Cette influence, elle est finalement, tout au long de leur vie, elle s'orchestre sans que l'un prenne le dessus finalement sur l'autre.
Oui, tout à fait. Et le rôle de Verlaine est essentiel ensuite dans la postérité de Rimbaud, parce qu'à part une saison en enfer, aucun texte n'a été imprimé, ce qui est quand même incroyable. Et encore, la majorité des ouvrages, des opuscules imprimés vont rester à Bruxelles dans les caves ou dans les réserves de l'éditeur.
Ça, je l'ai découvert dans votre livre,
donc
c'est incroyable.
Donc, ne seront pas diffusés. Et ensuite, donc Illumination va être entre les mains de Verlaine, puisqu'il va confier à Verlaine le manuscrit d'Illumination, qu'on devait d'ailleurs prononcer à l'anglaise Illumination, puisque le voyage à Londres était une source d'inspiration imminente pour ce recueil. Tout ça n'intéresse plus du tout à ce moment-là, comme vous disiez, sur les routes d'Afrique, très très loin de Charleville et très très loin de Paris, très très loin du symbolisme, très très loin de la littérature. Ça n'intéresse plus du tout Rimbaud, qui tourne le dos définitivement et résolument à cette partie de sa vie.
Sur le dérèglement, c'est une notion qui revient aussi dans votre livre, le dérèglement de tous les sens, est-ce que ce n'est pas aussi un peu une méthode spirituelle?
Si.
On pourrait peut-être parler de Rimbaud un peu comme un saint inversé.
Oui.
Un mystique sans Dieu, finalement.
Le suprême maudit, le suprême savant, ce sont les termes qu'il emploie dans cette lettre du voyant, qui était à la fois, là encore, fulgurante, éblouissante, incroyable, je ne sais ce qu'il faut dire. Il faut se faire voyant par un immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Il est complètement dans une autre perspective. Et le lieu, d'ailleurs, aussi de ce dérèglement, c'est la langue, c'est les mots. Parce que il voit deux sortes d'hallucinations. Il y a l'hallucination simple et l'hallucination des mots. L'hallucination simple, c'est par exemple dans le poème L'Arme, où on voit ce paysage qui est un paysage d'une vallée cressonneuse, verte, charmante, etc., brusquement se transformer en une sorte d'illumination déjà avec à la fois des gares, des orages, un paysage pulvérisé. Donc c'est un véritable travail, à la fois un travail sur les sens, et il y a aussi, et ça c'est aussi important dans le séjour parisien, et c'est grâce ou à cause de Verlaine qu'il va découvrir, c'est-à-dire tous ces excitants, c'est-à-dire évidemment l'absinthe, oui. La drogue, l'absinthe au verpillier, etc. Donc on est vraiment aussi dans une pratique littéraire, dans une écriture qui devient d'une sorte d'expérience intense, voire même une expérience des limites. Il y a une sorte de surhumanisme, de démiurgie. Ça apparaît d'ailleurs dans le nombre de ses poèmes. Et après, tout ça s'effondre, il tombe, il est revenu à la réalité rugueuse, il est tombé, il est paysan, comme il le dit dans un de ses poèmes. Donc après l'élan, après la ferveur, après l'envol, il y a toujours la chute. Et c'est une certaine manière. Et Une saison en enfer, qui est un recueil qu'il écrit donc à Roche, dans une propriété qui a encore une propriété maternelle, ce qu'il appelle le trou de Roche, qui est un lieu encore pour lui d'un ennui insondable et épouvantable, c'est là qu'il va écrire ce recueil, qui est un recueil absolument incroyable, qui est ce moment incroyable où il va faire ce poème, où il fait dialoguer Verlaine, il dialogue avec Verlaine dans ce recueil. C'est un poème, c'est un recueil absolument, absolument magnifique. Et nous sommes là dans quelque chose qui est tout à fait extrême et violent d'ailleurs. Et là, il faut aussi le dire, parce que l'objet, l'angle du livre était la relation de Rimbaud avec le sacré. Le Christ éternel, voleur des énergies, va apparaître. À un moment, il y a un moment très beau où le Christ apparaît marchant sur les eaux.
Oui.
Nul comme ça, de façon extrêmement fugace, extrêmement fugitive. Et il y a aussi, au verso de deux ou trois feuillets du manuscrit, des pages où il met le Christ en scène. C'est une sorte de parodie de l'évangile de Jean, une sorte de paraphrase de l'évangile de Jean, entre la paraphrase et la parodie, parce que il y a à la fois la fascination, mais la dimension blasphématoire existe encore. Et donc, il est là encore dans cette attirance, dans cette fascination pour cette figure du Christ, dont il avait dit que c'était un éternel voleur des énergies, et qu'il avait dit qu'il voulait vraiment, et il le dit dans Une saison en enfer, se délivrer de, je cite, de l'esclavage de son baptême. Donc c'est quand même très, d'où le mystique justement aussi à l'état sauvage, parce que être un mystique à l'état sauvage, c'est avoir cette préscience ou cette saisie du surnaturel, ce qui occupera Claudel après, mais c'est une volonté aussi de revenir à l'état sauvage, c'est-à-dire de dynamiter, de pulvériser, là encore, terme rimbaldien, et du monde, quand tu en seras passé, que restera-t-il? En tout cas rien des apparences actuelles, dit-il. Ben, justement, c'est aussi pulvériser tout ce qui est dogme, tout ce qui est foi, tout ce qui est carcan ecclésiastique.
Alors, un auditeur réagit et je l'en remercie. Je vais le citer. « Bonjour, je bois du petit lait, point de suspension. À mon humble avis d'instituteur retraité et respectueux de monsieur l'inspecteur général de l'instruction publique, Arthur Rimbaud est un authentique mystique, poète de génie qui n'a jamais cessé de courir après le Rédempteur crucifié, y compris et peut-être surtout durant les pires instants de sa déréliction. Le verbe incarné, livré, pour nous, le fascinait. Il m'arrive d'alimenter ma propre foi dans les épreuves en relisant Les pauvres à l'église ou Les étrennes, entre autres poèmes fulgurants de ce maître en poésie. Un mirliton ravi de cette émission qui nous fait prendre beaucoup de hauteur. » Merci à notre auditeur, à Michel, je vais lui citer juste son prénom. Alors, le dérèglement, on en a parlé. Et puis, il va y avoir le silence. Cette course, il n'a que 20 ans. Et le silence qui va arriver, qu'il va souhaiter. Il ne va pas le subir, il va le déclencher et le souhaiter. De Rimbaud qui s'arrête à 20 ans. Alors, silence, échec ou accomplissement, est-ce qu'il a cessé d'écrire ou est-ce qu'il a juste cessé d'être un poète?
C'est une bonne question. Je pense qu'on ne cesse jamais d'être poète, mais ce que l'on peut objectivement dire et objectivement reconnaître, c'est qu'il a cessé d'écrire. Et d'ailleurs, il va même être très radical à l'égard de ce qu'il a écrit, puisqu'il va dire, il va qualifier ses écrits antérieurs de rinçures.
Voilà. En plus de tout, il va avoir un regard sur ce qu'il a fait.
Oui, extrêmement péjoratif,
Un regard de rejet.
négatif. Il rejette cela. D'ailleurs, Mallarmé, je cite approximativement, aura une très belle formule puisqu'il dira que Rimbaud s'est amputé vivant de la poésie. Je ne sais pas si on s'ampute vivant de la poésie. En tout cas, il va mener une vie. Mais depuis le début, d'ailleurs, de ça parsème son œuvre. Il y a cette obsession d'être un rentier. Cette obsession d'être un rentier, c'est-à-dire quelqu'un qui irait faire de l'argent dans une vie aventureuse, et Dieu sait si elle va l'être, et difficile, et pénible, et
Oui.
douloureuse, et qui rentrerait au pays avec de l'argent, et qui ferait fructifier cet argent et aurait enfin une vie calme. Et étrangement, ce modèle de vie qui, quand on l'exprime ainsi, ne correspond absolument pas aux représentations
Non.
que l'on a de la vie de Rimbaud, ce modèle. Et d'ailleurs, dans une des lettres de la fin, il dit, moi, j'aurais aimé avoir un fils, j'aurais
Une
aimé
famille.
une famille, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait passé, son enfance et son
À
adolescence, à
fuir.
haïr, à fuir, tous ces modèles, n'ayons pas peur des mots qu'il avait rejetés, sur lesquels même il avait craché, eh bien là, non, brusquement, ça devient quelque chose qui le travaille et qu'il aimerait vivre.
Alors que pour nos auditeurs, hein, parce que cette partie de la vie de Rimbaud, je l'ai moi-même découvert, en tout cas l'importance qu'elle avait sur ce silence, qu'est-ce que va faire Rimbaud à partir de 20 ans?
Plein de choses, il va aller en Abyssinie, à Harare, il va aller livrer des armes au roi Ménélique, on le trouve partout. Il voyage en Europe aussi avant, il est prêt à se lancer comme mercenaire. C'est une période d'ailleurs de la vie qui est assez complexe, on ne sait pas tout. Et c'est une période qui est encore sous l'égide du mouvement
Voilà.
et de l'errance. Il n'est jamais
On
au
peut
même
presque dire
endroit.
fuite,
De la
peut-être.
fuite, on le croit à un endroit, il est ailleurs, etc. Et donc, il va finir
Une fuite ou une quête?
une fuite, une quête, une vie extrêmement difficile. Mais il garde toujours, il se fait livrer, par exemple, des manuels. Il est fasciné par le paysage du Harare, par la
Mais
topographie,
non, il
par
n'écrit rien.
non, par l'hydrographie. Il lit, tout ça l'intéresse un peu comme d'ailleurs comme son père. Qui lui aussi avait fait des rapports sur les terres qu'il avait traversées. Donc c'est assez étonnant, mais il n'écrit plus rien. Il écrit quelques lettres. Et d'ailleurs, dans la bibliothèque de la Pléiade, on trouve après les œuvres ces lettres, et qui sont d'ailleurs aussi absolument admirables. Il écrit toujours très bien. Il y a un moment, il décrit un paysage, ce serait presque un fragment
Mais la beauté de ces paysages aurait pu
d'illumination.
lui donner l'envie.
Non, il est déjà requis, je crois, par une vie assez épouvantable, des petits chefs sous l'autorité desquels il travaille, enfin, tout ça, toute cette vie, si vous voulez, dont certains d'ailleurs ont fait une sorte d'épopée un peu mythique, oh là là, l'Abyssinie, les
Oui, en
lointains,
enjolivé, mais
en
c'était pas.
enjolivant, quand on y regarde de plus près, c'est tout sauf ça, c'est quelque chose d'extrêmement pénible, la chaleur, les conditions de vie, la misère, et puis la maladie. Qui évidemment déjà la gangrène qui arrive, bon, qui va faire qu'il va mourir très jeune.
Très jeune à 37 ans, en revenant en France, à
Oui,
Marseille,
Marseille.
d'un cancer des os,
Oui.
on peut le voir. Alors, pour finir, et c'est un point important, on en est là. Rimbaud, 20 ans, part, le silence s'abat sur cette œuvre déjà magistrale, hein, malgré la fulgurance de l'œuvre. Et puis, il y a l'interprétation, il y a cette espèce, alors on va rester dans le mystique, résurrection de Rimbaud, à travers des personnages que j'ai aussi découverts dans votre ouvrage. Un notoire, il y en aura d'autres, mais le principal en tout cas selon moi, qui est Paul Claudel. Alors Paul Claudel, il va lire Rimbaud vers 1886,
En
1887, en
1886,
1886. Il est jeune diplomate, hein, pour reconstituer. Il est en pleine crise spirituelle et il dira plus tard que la lecture de Rimbaud a été pour lui un choc métaphysique. Rimbaud, c'est un mystique à l'état sauvage et c'est cette formule que vous avez reprise pour votre titre.
En 1886, Claudel se cherche, il étouffe dans ce 19e siècle matérialiste, scientiste, positiviste. Et au mois de mai, alors que le mois de mai d'ailleurs est essentiel dans l'œuvre de Rimbaud, mais le
Le mois de
hasard
la
fait
Vierge.
qu'en Rimbaud, et le mois, il lit il découvre dans une revue qui s'appelle La Vogue un poème d'illumination génie, qui est un poème absolument admirable, qui met en scène une sorte de créature, je dirais, mythologique et bondissante. Et déjà, dans cette figure, Claudel croit deviner le Christ. Et il dira d'ailleurs que cette œuvre lui a donné la lecture de ce poème lui a donné le sentiment du surnaturel. Quelques mois plus tard, on est à Notre-Dame, le 25 décembre, le jour de Noël, au pied de Notre-Dame du Pilier. Et là, il a la révélation de l'éternelle enfance de Dieu. Et ça va être évidemment ce choc qui va être justement donc une commotion qui va se traduire par une conversion. Et Claudel devient vraiment un catholique fervent et ardent.
Et vous vous dites, une légende est en train de se forger, celle d'un Rimbaud catholique, et elle aura la vie dure.
Oui.
Alors c'est une légende ?
Bah, à mes yeux, c'est une légende. Bon, je crois
que... Parce qu'il s'agit quand même de Paul Claudel.
Oui.
Ça peut surprendre nos auditeurs.
Non, alors Paul Claudel, si vous voulez, mais ce qui est plus agaçant, c'est finalement le rôle que va jouer le beau-frère Paterne Berrichon, le mari... d'Isabelle qui a assisté à la mort de son frère. Isabelle qui est une sorte de sœur abusive et qui va faire de Rimbaud finalement un poète, on va faire de Rimbaud un poète chrétien, on va même nier la dimension amoureuse de la relation avec Verlaine. Ouais. Et le beau-frère qui va publier les lettres va même se livrer à une entreprise de falsification parce qu'il va cavarder allègrement et faire disparaître des éléments des poèmes ou des éléments de la correspondance.
On va réécrire l'histoire de
Rimbaud. On va réécrire et on va en faire un Rimbaud. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que dans ce beau recueil de Claudel qui s'intitule La Messe là-bas, à un moment, Claudel fait parler Dieu et Dieu s'adresse à Rimbaud et lui dit « Mais Rimbaud, tu pensais toujours pouvoir me fuir. » Et donc s'installe, si vous voulez, cette... c'est évident. Et par exemple, en 1912, quand la Nouvelle Revue Française consacre un numéro à Rimbaud, André Gide est un peu embarrassé parce qu'on ne peut pas, évidemment, ne pas avoir Claudel, mais on ne peut pas non plus avoir André Suarez. Et ils ont deux lectures antinomiques. Oui. Puisque, évidemment, Claudel fait de Rimbaud un poète chrétien, tandis que Suarez, lui, est dans une lecture tout à fait différente. Et d'ailleurs, on va publier dans un numéro de novembre, je crois, et puis dans un numéro de janvier ou de février, pour que les deux textes ne cohabitent pas.
Ce qui est quand même incroyable.
Et il ne s'agit surtout pas, évidemment, pour Gide, qui est un génial chef d'orchestre de cette jeune revue littéraire qui est en train de débuter, il ne s'agit surtout pas de se brouiller avec quelqu'un dont il sent qu'il va jouer un rôle important.
Donc, il y a toute une entreprise comme ça.
Et oui,
on dirait marketing à notre époque.
Et ça continue d'ailleurs avec André Breton, puisque finalement, les surréalistes vont reconnaître Rimbaud comme le poète génial, le poète absolu. Il faut savoir, par exemple, que lorsqu'il s'installe à Saint-Cyr, que la dans le Lot, André Breton plus tard choisit ce lieu perché, ce village magnifique, parce qu'il lui fait penser à une illumination de Rimbaud. Et donc, dans les premiers manifestes du surréalisme, Rimbaud est cité comme le poète absolu, etc. Mais quand il va voir, quelques années après, les effets de cette récupération, que va faire Breton ? Il va se déprendre de Rimbaud, alors que finalement, lorsqu'il rencontre Nadja, par exemple, dans ce magnifique Nadja récite Le Dormeur du Val. De la même façon, Breton déambulait dans Nantes en récitant du Rimbaud. Mais là, il va se déprendre de Rimbaud au motif que finalement, ce poème est susceptible d'être récupéré. Donc ce n'est pas possible.
Et vous dites très bien, et la phrase est de vous, l'aveuglement dogmatique a ses limites, point de suspension.
Oui, l'aveuglement de tous ces aveuglements sont... Il faut revenir au texte et puis c'est la seule.
Et alors, Georges Isambard, pareil, il a été excédé un peu par cette récupération. Il est toujours là, le mentor.
Il disait le syndicat Berrichon.
Voilà, le syndicat Rimbaud, la maison Berrichon, est décidément prête à tout dans le cas d'une canonisation aussi absurde que fallacieuse, y compris à sortir l'arme de la prédestination. Ce qui est quand même fascinant. La vérité est peut-être un peu entre les deux.
Oui, je pense qu'elle est entre les deux. On ne connaît pas la lettre de votre. Le mot de votre. De votre lecteur, enfin de votre auditeur.
Oui.
Tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait sur cette ligne-là, mais je la respecte infiniment. Et je trouve très beau d'ailleurs de voir un instituteur, c'est ainsi qu'il s'est nommé. J'aime beaucoup ce terme d'ailleurs d'instituteur, qui est magnifique.
Oui.
Enfin, un passeur, un maître manifestement aussi, un maître au sens étymologique du terme, quand on disait on a un maître, et bien qui a aussi cette passion pour la littérature. Et donc il y a cette ambiguïté, et chacun le lit aussi comme il l'entend, si vous voulez. Moi, je suis un peu... à côté de cette thèse, un peu réfractaire, un peu réticent, Mais toutes les lectures sont possibles. Et en tout cas, ce qui est beau, c'est revenir au texte. C'est ce que disait votre auditeur, le fait de revenir à ces œuvres, qu'il les lise toujours, etc. Mmh. Dans une époque, finalement, où on ne lit peut-être pas assez, d'ailleurs, la poésie. Je crois que c'est peut-être aussi ça, un des enseignements aussi de ce livre.
Exactement, revenir à la poésie. Alors, en fait, l'essentiel à comprendre, c'est que Rimbaud ne s'est jamais lui-même revendiqué comme mystique, je pense pas.
Non.
Dans aucun de ses textes. Non. Il n'a jamais dit qu'il revenait à la foi, il ne l'a pas écrit.
Il n'a pas écrit Sagesse, ou voilà. Sa Sagesse.
Voilà. Il n'y a pas eu de conversion
non.
claire,
non.
en tout cas.
Non.
Même si Claudel, lui, voit dans une saison en enfer une traversée spirituelle.
Oui, oui.
C'est son interprétation.
Mais le rôle de Claudel est extrêmement important aussi, d'ailleurs, dans finalement l'installation de Rimbaud dans le paysage littéraire au début du XXe siècle. Et moi, d'ailleurs, si vous lisez après Le Soulier de Satin et d'autres œuvres de Claudel, elles sont saturées de références rimbaldiennes. Donc, il est complètement habité par Rimbaud.
Alors, vous dites aussi, et j'invite vos auditeurs de Radio Courtoisie à se procurer votre ouvrage, hein, qui est très limpide. Hein, vous en faites une écriture fluide et pas lourde, quelque chose de très fluide et de très, très agréable à lire. Et ça, je tenais à le dire, parce que le sujet est complexe, on l'aura compris en bout de trois quarts d'heure, et on n'a pas de conclusion, et chacun va se la faire, comme vous dites, en revenant au texte. Vous dites « Une autre histoire se constitue ainsi, et elle vise à effacer la légende obscure et sulfureuse de l'homme aux semelles de vent. » C'était la formule de Verlaine. « Tout ce qui est sombre, tout ce qui relève de la transgression doit être effacée et même niée. À cet égard, l'entreprise de Pierre Dufour, alias Paterne Berrichon, c'est bizarre hein, de prendre ce surnom.
Oui, le choix n'est pas très heureux.
Non. Comment s'affubler d'un tel pseudonyme, vous le dites, ben voilà, je vous ai devancé, demeure un modèle et un sommet de malhonnêteté intellectuelle. On l'a dit, selon lui, la liaison même entre Rimbaud et Verlaine fut seulement amicale, et là où la sœur Isabelle se contentait d'une agonie et d'une mort à Marseille en bon chrétien, Berrichon saute un cran, il n'est pas loin de voir en Rimbaud l'égal de Dieu. La légende dorée qu'il façonne tient de la falsification, elle le fait au double mépris des réalités biographiques et littéraires. Et chacun pourra s'en rendre compte. En tout cas, merci beaucoup Philippe Le Guillou pour votre livre Rimbaud, mystique à l'état sauvage, la maison d'édition d'Esclé de Broyeur. Et on aura plaisir à se replonger, ça donne qu'une envie en fait, c'est se replonger dans les poèmes de Rimbaud que vous nous avez donné clairement envie de lire pour se faire notre propre interprétation du mystique à l'état sauvage. Merci en tout cas, merci beaucoup de vous être déplacé, les auditeurs apprécieront.
Merci à vous.
Et retrouveront tout ce qu'il faut de savoir de vous sur notre site Radio Courtoisie. Merci à vous.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines. Comme avant. y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai et qui aimer ou condamner. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans à jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfant, comme avant.
Nous recevons dès à présent, et sans qu'il y ait de lien direct, en tout cas vous nous le direz avec Rimbaud, de notre premier invité Philippe Le Guillou, nous recevons Olivier Delaffaire qui est mon deuxième invité ce midi. Bonjour Olivier.
Bonjour madame.
Vous êtes dans nos studios, je dis ça parce que quelquefois on a des invités qui sont par les ondes. Vous êtes avec nous, vous êtes venu nous voir chez Radio Courtoisie et je vous en remercie. Olivier Delaffaire, vous êtes candidat à la mairie de Versailles pour les municipales de 2026 et dans le cadre des élections municipales, nous donnons la parole à différents candidats et vous avez accepté, et je vous en remercie, d'être présent aujourd'hui pour nous parler de votre candidature dans cette belle ville de Versailles. Alors vous avez un pédigré, hein, je vais me permettre de le rappeler, pour nos auditeurs de Radio Courtoisie qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes conseiller municipal, conseiller départemental. Vous avez longtemps été engagé chez Les Républicains, nous allons y revenir, et vous avez décidé pour ces élections municipales de rejoindre l'Union des droites pour la République, UDR, qui a aussi le soutien du Rassemblement national. Alors, à la mairie de Versailles, Déjà, vous allez nous parler d'Olivier de Lafère, de votre parcours, si vous voulez bien, pour qu'on apprenne à se connaître. Et puis ensuite, nous allons revenir aux élections municipales à Versailles. Tous les éditeurs de Radio Courtoisie ne connaissent pas forcément le maire, hein, François de Mazières, et puis ce qui s'y passe. Mais en tout cas, j'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui, car je trouve que votre parcours politique et votre engagement, qui ont pris une tournure très récemment par l'adhésion à l'UDR, méritent d'avoir un coup de projecteur sur un parcours d'homme de droite, porteur de certaines valeurs dans lesquelles nos auditeurs se retrouveront très certainement. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à vous inviter, mais avec justement pas un long chemin tranquille, mais des interrogations, des ruptures, et pourquoi pas peut-être une union qui va nous permettre de sortir de la mouise politique dans laquelle nous baignons allègrement. Olivier de Lafère, à vous de vous présenter.
Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation et de me donner l'occasion de pouvoir vous exprimer effectivement cette candidature. C'est un choix, mais après quelques années, effectivement, ça fait maintenant 15 ans que je suis élu au département des Yvelines, où j'ai eu la chance de travailler sur un des plus beaux projets que pourrait avoir un élu, que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, où j'ai pu travailler depuis la candidature jusqu'au jeu. Et je crois que c'était un dossier assez magnifique, même j'ai envie de dire un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui on travaille sur l'héritage des Jeux Olympiques, de pouvoir impulser toute cette dynamique sportive sur les territoires. Ça a été notre ambition pendant toute la préparation de ces Jeux. Et aujourd'hui, de continuer à les faire vivre, c'était aussi un engagement du démarrage de ces Jeux. Et surtout d'aller un peu plus loin, de développer aussi, d'avoir profité des Jeux Paralympiques pour aussi ancrer le paralympisme et le parasport, pardon, dans les territoires et dans nos clubs, dans les Yvelines notamment. Et j'avoue qu'on peut en être fier, parce qu'on a eu beaucoup de clubs aujourd'hui qui ont créé des équipes paralympiques grâce à ces Jeux paralympiques qui ont été exceptionnels. Et je crois que c'est aussi une certaine fierté qu'on a pu avoir dans ce département. Et très sincèrement, ça s'est même déroulé un peu sur l'ensemble du territoire français. Et notamment, j'en ai pas mal parlé avec tous nos collègues aussi d'Île-de-France. Et ça a été une volonté commune de l'ensemble des départements que de travailler aussi sur ce sujet du paralympisme et du parasport. Donc c'est entre guillemets peut-être une fierté qu'on pourra avoir demain de ces Jeux, un très bel héritage. Et c'est ce à quoi j'ai essayé de m'atteler, parce que c'était aussi... Ça fait partie de nos missions au département, que de pouvoir aussi travailler. Vous savez, la mission du département, c'est une mission sociale au départ, et notamment de s'occuper des personnes âgées, des personnes handicapées, de toutes les personnes fragiles en fait sur le territoire. Et c'est une très belle mission. On connaît peu les départements, mais
c'est vrai que le rôle de conseiller départemental, on ne connaît pas bien non plus.
Clairement. Et je suis ravi du coup de pouvoir aussi en parler, mais ça fait partie aussi de nos missions que de pouvoir aider chacun et chaque Yvelinois sur différents sujets à tous les âges de la vie.
Alors, votre parcours, on va revenir un peu pour mieux comprendre ce qui vous enracine là-dedans et ce qui vous fonde, vous, Olivier de Lafère, pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes né à Versailles, vous y avez grandi.
Non, je suis berrichon à l'origine.
Voilà, mais ça va plaire à beaucoup d'auditeurs.
À l'origine, mais je suis venu m'installer à Versailles parce que je trouvais que c'était un super compromis entre la province et Paris. Et je me suis marié et j'ai habité Versailles depuis mon mariage. Ça fait 30 ans que j'habite à Versailles.
C'est un vrai Versaillais.
Et donc je pense maintenant devenu un vrai Versaillais. En tout cas, c'est une très belle ville que j'aime vraiment profondément et pour laquelle j'étais ravi de m'investir depuis 15 ans, que ce soit au département et même aujourd'hui à la ville et à la communauté d'agglomération.
Parce que vous êtes conseiller municipal, dans le conseil municipal et même là en tant que candidat à la mairie de Versailles, il y a l'idée de cité. C'est un peu particulier les élections municipales, on le dit d'ailleurs. C'est une démarche particulière même dans le choix de vote. On y reviendra. Alors peut-être que cette fois-ci, en fonction de comment ça tombe aussi, il va y avoir aussi la volonté pour les électeurs de marquer un certain intéressement pour certains partis. Peut-être il y a une rupture, on l'espère. Mais je ne sais pas si comment vous voyez les choses, mais il y a l'idée de j'agis pour la cité, d'être beaucoup plus proche de mes concitoyens. Enfin, cet engagement, il est particulier. Vous avez été conseiller municipal. Rappelons le nom aussi du maire de Versailles, le contexte politique actuel à Versailles. Qu'est-ce que vous en avez tiré qui vous pousse finalement à vouloir la magistrature suprême ?
Je crois que l'engagement politique, c'est d'abord un engagement pour la cité, en fait, et pour le citoyen. C'est pouvoir répondre aux attentes des Français. Je me suis engagé en politique, moi, assez tard, en fait, dans ma vie. J'avais 35 ans, on va dire. Mais je me suis dit, à un moment, on ne peut pas toujours râler. À un moment, il faut aussi y aller. Il faut aller soutenir aussi J'avoue que la vie politique n'est pas simple et pas facile. Et de temps en temps, il faut peut-être aller à l'intérieur des partis et peut-être s'investir pour pouvoir apporter aussi nos volontés, nos convictions. Et c'est ce que j'ai fait en me présentant en 2011 pouvoir représenter mes convictions et ce à quoi je croyais pour la ville.
Donc à l'époque, vous étiez à quel parti ?
J'étais à l'UMP à l'époque.
Ouais, hein. C'est ça.
Voilà, je me suis même présenté contre un UMP à l'époque parce que je pensais qu'il fallait un peu renouveler aussi les candidats. Et j'ai gagné. Et en fait, le département, c'est une très très belle entité, mais effectivement, on a besoin aussi d'un enracinement local. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, tout mandat devrait même avoir un enracinement local. Et c'est un peu, à mon avis, la grande problématique aujourd'hui, même des députés de l'Assemblée nationale, c'est qu'ils n'ont plus d'ancrage, et notre président, c'est qu'ils n'ont pas d'ancrage local.
Il n'a jamais été élu ailleurs.
Faire de la politique sans jamais connaître ce qu'est une institution locale, pour moi, est un peu dérisoire. L'intérêt, c'est de pouvoir apporter des réponses et de connaître les problématiques du territoire. Et très sincèrement, quand vous êtes au département et vous voyez la misère s'installer, parce que j'ai en plus beaucoup œuvré, aussi dans l'aide sociale à l'enfance, dans l'aide sociale au département, vous voyez des trucs abominables sur nos territoires qui existent.
Et on est dans un territoire qui est pourtant plutôt favorisé.
Et on est dans les Yvelines. On n'est pas au fin fond de la France. Mais je crois que s'investir en politique, c'est pouvoir agir, c'est vouloir agir. Et ça a été mon ambition. Et c'est vrai que pendant ces 15 années de mandat, j'ai eu grand plaisir à travailler un certain nombre de sujets, que ce soit au département et pour la ville, et essayer de créer aussi cette dynamique qu'on a pu avoir avec les Jeux Olympiques, par exemple. Je me suis occupé aussi de la Ryder Cup avant. Ouais, on a essayé de créer sur nos territoires, de pousser sur nos territoires un certain nombre d'événements. Et je crois que c'est ça aussi un élu, c'est d'être force aussi de proposition, d'action pour les habitants.
Alors, votre décision de quitter les LR pour rejoindre l'Union des droites pour les publics, dit l'UDR, vous allez nous expliquer un peu ce que l'UDR, c'est neuf comme parti, il faudra peut-être aussi peu expliquer à nos auditeurs, elle a suscité de fortes réactions. La majorité départementale vous a exclu de son groupe assez rapidement et soutient le maire sortant, François de Mazière, évoquant une trahison. Alors ça, j'ai un source info Yvelines, voilà. Et dans Le Parisien du 27 janvier 2027, vous affirmez pourtant, moi, je n'ai pas changé, je suis restée droite dans mes bottes. Alors, on va parler de cette... c'est peut-être une continuation plutôt qu'une rupture, vous allez nous le dire. Hein, et plus largement, si on lit notamment le journal du dimanche, du 8 février 2026, les Républicains connaissent aujourd'hui des tensions internes et pas mal de départs sous la pression de l'UDR et d'Éric Ciotti. Vous, comment vous voyez cette... expliquez à nos auditeurs quel était votre chemin intellectuel pour arriver à vous dire, alors qu'on vient, et vous venez de nous l'expliquer, vous avez un long parcours chez les Républicains, l'UMP, enfin voilà, cette même famille politique qui vous a fait basculer, en tout cas émettre le souhait de rejoindre le Rassemblement des droites, l'Union des droites pour la République.
Écoutez, je vais être très franc avec vous. Depuis 2024, je ne me retrouverai pas dans cette dérive politique, qu'elle soit nationale, quand on regardait effectivement les prises de position aujourd'hui des Républicains, et qu'elle soit même locale, où finalement je retrouve dans la majorité municipale un grand nombre de macronistes. Moi, l'union avec la Macronie m'a pas plu, très sincèrement, depuis 2024.
Juste une petite pause. Comment ça se passe à Versailles ? Peut-être c'est le laboratoire à Versailles, s'est passé. On peut peut-être y revenir. François de Mazière, etc.
Mais justement, alors à Versailles, ça a effectivement créé un peu de mécontentement auprès des institutions en place. Moi, je crois que ce qui était important aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va apporter une autre réponse. Je vous disais justement que je ne me retrouvais pas dans cette droite qui s'associe à la Macronie. Quand vous voyez l'échec aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans le pays, je ne veux pas que nos collectivités tombent dans ce même abîme que la France. Et c'est malheureusement un peu ce que je ressens aussi à Versailles. Aujourd'hui, où on voit que Versailles ne bouge plus, on voit la partie économique aussi se déliter. Je crois qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de retrouver une dynamique. Et moi qui avais un petit peu abandonné depuis 2024 la politique, au sens où je ne me retrouvais pas, je vous le disais, dans cette famille recomposée entre la Macronie, le centre et les Républicains. J'ai fait des rencontres entre-temps et j'ai rencontré à la fois à l'UDR, donc le parti d'Éric Ciotti, et à la fois même au Rassemblement National, de belles personnes, très sincèrement. Des personnes qui avaient envie de changer le pays, qui ont envie de bouger dans le pays, ce que je ne voyais plus, effectivement.
Qui prenaient au moins conscience qu'il fallait le faire.
Et qui prenaient, exactement, et qui prenaient vraiment conscience. Et je crois que chez nous, on ne l'a pas pris. Enfin, chez les Républicains, quand j'ai chez nous, j'y suis plus.
Ouais.
Mais chez les Républicains, on a conscience qu'on veut juste protéger son siège, en fait. La France, c'est quelque chose d'annexe. Moi, ça ne me plaît pas. Et très sincèrement, tout mon investissement depuis que je suis engagé en politique a été de faire quelque chose. Si c'est pour être juste regarder passer les trains, moi ça m'a jamais intéressé et c'est la raison pour laquelle je me suis toujours investi dans les missions qui m'ont été confiées. Mais aujourd'hui, je trouve que justement, avec cette union des droites, j'ai retrouvé des personnes qui croient demain, qui ont un espoir demain pour bouger la France et changer la France. Et je l'espère sincèrement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'engager finalement avec eux, avec leur soutien, pour peut-être commencer déjà dès le local. Et en fait, cette union des droites, on a réussi à la faire à Versailles. Puisque finalement, on a avec nous Identité Liberté, on a avec nous, via le Parti Chrétien Démocrate, on a donc l'Union des droites pour la République d'Éric Ciotti et le Rassemblement National qui nous ont rejoints. Et on a réussi à faire une liste, même avec des anciens LR. Donc en fait, on aura réussi à fédérer...
C'est important ça de le dire. Donc sur votre liste, il y a des anciens LR.
Il y a des anciens LR, bien sûr. Mmh. On aura réussi à fédérer, en fait, cette droite, ces personnes qui ont encore des convictions pour bouger la France et changer la France demain. Et demain, je l'espère, aussi changer aussi notre ville de Versailles, qui est une très très belle ville, mais qui a besoin de renouveau.
Alors donc, pour replacer dans son contexte, pour ceux qui ne connaîtraient pas le maire actuel, François de Mazières, il a été élu initialement, parce que ça fait longtemps qu'il est... maire de Versailles, il était UMP, c'était un LR.
Il était soutenu par LR, il était LR effectivement, puisqu'il
a été
candidat aussi au sénatorial, et voilà.
D'accord.
Il a été député LR.
Voilà, et aujourd'hui, vous considérez qu'il s'est fondu dans la macronerie, en fait.
Complètement. D'abord, il a dans son équipe un député Renaissance. Il a après aussi un certain nombre de personnalités aussi d'horizon, du centre. Il ne restait plus que 6 ou 7 LR sur la liste.
Oui.
Voilà, on est devenu une minorité.
Ah,
on était devenu une minorité sur la liste de François de Mazières à l'époque, enfin depuis 2020. Et moi, c'est vrai, quand je me suis engagé en 2020, c'était derrière un élu de droite.
Oui.
Alors avec le centre, bien sûr, parce qu'on a toujours fait des alliances avec le centre et la droite, mais c'était pas un élu macroniste. Aujourd'hui, on se rend compte que toute sa liste est passée quasi chez Macron. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, il n'y a pas de liste macroniste aujourd'hui
à
Versailles.
C'est donc, la plus belle preuve, je pense.
Donc c'est la plus belle preuve. Ouais. C'est bien qu'elle est quelque part, sinon il y aurait eu une constitution de liste macroniste.
Il y a vraiment une transformation, et c'est intéressant, parce que cette transformation-là, on la voit au niveau national, à l'Assemblée nationale, par
bien
exemple.
Bien sûr, regardez les LR aujourd'hui qui se fondent dans la Macronie. Mmh. Donc, et on le voit bien, et aujourd'hui, les investitures, elles sont données entre la Renaissance, les LR et le centre français, quoi. Ce qu'on appelle le bloc central.
Voilà. Est-ce que, alors vous inscrivez donc dans cette dynamique qu'a mis à jour le journal du dimanche là le 8 février 2026, qui évoque une droite qui finalement se fissure sous la pression de l'UDR, avec des élus qui se rejoignent à Éric Ciotti. Est-ce que vous pensez, vous, que les Républicains traversent une crise d'identité, ou est-ce qu'ils en ont à peine conscience ?
Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience du tout de ce qui se passe réellement sur le terrain. Déjà moi, je vois que depuis notre candidature, j'ai beaucoup de messages, je dis « enfin, vous avez réussi à faire cette union des droites ».
De tout le monde.
De tout le monde. Et des centristes, hein.
Oui.
Des gens que j'aurais jamais imaginé même soutenir à la droite, vous voyez.
Oui, d'accord.
Jusqu'au Rassemblement National, et tout le monde vient me voir, même des gens de Reconquête nous disent aujourd'hui, bravo, vous avez réussi à faire cette union des droites. Et ça, je crois que c'est finalement à la fois une fierté et à la fois ça m'engage en responsabilité pour justement aussi essayer de faire gagner cette union des droites à Versailles. Après, je crois que Le souci, en fait, qu'ont les LR aujourd'hui, c'est de plus avoir de vision sur le long terme, en fait. Moi, je me rappelle d'un François Fillon qui avait un projet pour la France, qui avait un projet de droite à assumer. Moi, très sincèrement, je ne sais pas où est le projet aujourd'hui des Républicains. Et très sincèrement, je le sens plus du côté de la Macronie, et on peut voir justement un certain nombre de LR rentrer même dans les gouvernements d'Emmanuel Macron. Je ne les vois pas se positionner sur des vrais fondements de la droite. où sont passés ces gens de droite. Et quand moi, on me reproche d'être un traître aujourd'hui au département et à la ville, j'ai envie de dire, je ne sais pas où est le traître. Moi, je suis toujours resté fidèle à mes convictions. Je n'ai pas changé. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été reconnu aux Républicains pour être un peu à droite de la droite. Oui, voilà.
À la droite des Républicains.
À la droite des Républicains. Oui, mais je l'assume et j'ai aucun problème. Et c'est ce qui faisait la richesse aussi à l'époque des Républicains. Maintenant, moi, je pense que les Républicains se sont noyés vraiment dans la Macronie, et que les 5% que faisait à l'époque Valérie Pécresse, je pense qu'aujourd'hui, ils ne font même pas 2% demain à une élection présidentielle.
Et pourtant, ils sont la variable d'ajustement de beaucoup de...
C'est ce que les gens espèrent.
Mais à l'Assemblée nationale, le budget, ou à chaque fois qu'il y a une mise en une motion de censure, ils sont la petite variable d'ajustement qui fait que Macron sort.
C'est pour ça qu'il ne vote pas les censures, c'est aussi pour rester à l'Assemblée nationale.
Voilà, voilà.
Tout le monde sait que demain, s'il y avait une élection législative, il y aurait beaucoup moins de députés LR. Donc, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les Français, 67%, il y a eu un sondage en décembre qui est sorti, quand même 67% des Français de droite veulent l'union des droites. Donc moi, ce que j'espère, c'est que 67% des Français et des Versaillais, demain, vont vouloir aussi cette union des droites.
Vous votez Olivier de l'Affaire en mars prochain. Comment vous avez vécu, vous, c'est un peu violent quand même, cette exclusion d'un parti que vous avez porté finalement pendant les 15 dernières années? Concrètement, vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe? Ça se passe du jour au lendemain? Vous saviez que vous alliez être sur un siège éjectable?
Très sincèrement,
qui a appuyé sur le bouton?
Très sincèrement, je m'en doutais un peu, les connaissant et connaissant un peu cette radicalisation contre la droite. Je le regrette parce que effectivement, encore une fois, j'ai pas bougé. Moi, je suis resté un homme de droite. J'ai plutôt l'impression que ce sont eux qui se sont un peu éloignés plutôt vers la gauche. Oui, je trouve ça violent parce que quand on a 15 années de service avec des personnes qui du jour au lendemain vous tournent les talons, où sont passées les relations humaines, où sont passées, enfin je veux dire, la politique c'est aussi de l'humain, c'est pas que de la politique.
C'est Pierre Bédier en l'occurrence.
Et notamment Pierre Bédier, oui, et puis même François de Mazières, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui on n'est pas, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes opinions qu'on doit ne pas se parler. En tout cas moi ça n'a jamais été ma façon de faire de la politique, j'ai toujours parlé à tout le monde, mais c'est la leur, voilà.
Ouais.
Et c'est vrai que l'ouverture, je me dis que l'ouverture est un peu difficile, enfin chez certains, pourquoi cette haine? Alors que sincèrement, moi j'ai pas bougé. Voilà, je me sens droit dans mes bottes. Et je vais vous dire d'ailleurs, depuis mon annonce de ma candidature le 14 février, je me sens libre. Mm-hmm. Je me sens hyper libre de pouvoir parler, de pouvoir faire passer des messages et de pouvoir finalement parler de mes convictions sans devoir.
Vous étiez un peu bridé, ouais.
J'étais un peu bridé, très sincèrement.
Ouais.
Vraiment, vraiment.
Ouais.
Et toutes les belles personnes que je rencontre, vraiment, que ce soit dans tous les partis, je trouve qu'on a une chance d'abord parce que ce sont que de belles personnes qui sont pas forcément. Et notamment sur notre liste, qui ne sont pas forcément investis en politique, mais qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont des convictions fortes, et à la fois une envie de défendre notre projet et de défendre leur ville et d'aider les concitoyens. Et je trouve que ça, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'en politique, on a oublié pourquoi on servait, en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment... vous ne pouvez pas regarder notre programme, c'est qu'on va s'adresser vraiment aux personnes. On fait un programme pour des gens vrais, exactement.
Ça, c'est peut-être le côté hors-sol de nos politiques actuelles aussi, hein. Comment vous avez l'intention de rassurer les électeurs versaillais qui s'interrogent sur cette union des droites, qui est quand même relativement neuve, et puis le soutien du RN qui peut encore faire peur? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez là quand vous faites les marchés, que vous tractez? Qu'est-ce qui revient comme question?
Alors, j'avoue que le RN, le complexe RN est en train de quand même de s'affaiblir. Et tant mieux. Et même à Versailles. Et tant mieux, parce que très sincèrement, pour maintenant les connaître un peu plus, je trouve qu'il y a encore une fois des gens très très bien et des gens responsables. Et vraiment, je m'en réjouis et je voudrais vraiment leur dire qu'aujourd'hui, j'ai été très séduit par l'accueil qu'ils m'ont réservé.
Mm-hmm.
Et très séduit par la force de leurs convictions et leur envie vraiment de changer les choses. Moi, après, je ressens sur le terrain vraiment cette volonté. Aujourd'hui, les gens s'en moquent, en fait. Ils veulent plus de la gauche, ils veulent plus de la Macronie. Et ils veulent cette union des droites. Et le nombre de personnes qui sont venues, je vous assure, sur le marché me dire, mais vous avez réussi enfin à la faire.
Ah oui.
Et tant mieux. Et on le voit, enfin, vous verriez tous les messages. Moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est le nombre de jeunes. Moi, j'avais souvenir de faire des campagnes aux Républicains. On avait 2 ou 3 jeunes avec nous. Là, vous verriez le nombre de jeunes qui sont avec nous.
Ils sont même plus nombreux.
Et sur les marchés, que ça soit chez...
Ils n'ont pas nos barrières, je pense.
Exactement, ils n'ont pas nos barrières. Et en fait, leur volonté...
Il y aura moins de castors, vous pensez?
J'espère. Mais non, mais en fait... En fait, ces jeunes, ils attendent quelque chose de nous aujourd'hui. Mmh. Ils ont de l'espoir encore en nous. Mmh. Et c'est
donc
ça qui me pousse aujourd'hui. On a vraiment une responsabilité. Et c'est ce qui me pousse à continuer et en l'air encore plus loin, très sincèrement, parce que c'est violent, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
C'est la politique.
Mais la politique est violente. Mais je me dis qu'on va servir à quelque chose et on va essayer d'apporter quelque chose. Et moi, j'étais vraiment fasciné par ce nombre de jeunes qui nous suivent, que ce soit chez Identité et Liberté, que ce soit à l'UDR ou que ce soit au Rassemblement National. C'est des jeunes, ils attendent en fait des réponses, ils attendent de la fermeté, ils attendent un projet. C'est ce qu'on n'avait plus chez nous, aux Républicains, et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui, effectivement, dans ce bloc central.
Alors, vous avez, vous pensez, s'il y a un deuxième tour hein, aux élections municipales de Versailles, ça fait combien de temps que François de Mazières, c'est quand même un moment. François de Mazières, pour nos auditeurs, il faut quand même dire, c'est quelqu'un qui est très installé.
Ça fait 30
maire.
Ans qu'il est à la mairie de Versailles et 18 ans en tant que maire, oui.
Voilà, donc vous attaquez à un bastion.
Ah effectivement, bon. Effectivement.
S'il y a un second tour, puisque je crois qu'il avait été élu au premier tour la dernière fois, mais c'était
oui.
un contexte un peu particulier.
Oui, 25% de votants, c'était la crise 25% Covid.
25% de votants, voilà. On sortait du Covid, enfin, je ne sais pas si on était en train d'en sortir ou pas, mais à peu près. Est-ce qu'il y aura une fusion au second tour? Comment vous voyez les choses hein?
Alors, moi déjà, je ne m'attaque pas à la personne, je m'attaque vraiment à un projet et en fait à une idéologie politique. Moi, je crois que cette Macronie est ce qui a affaibli nos collectivités aujourd'hui. On l'a bien vu, d'abord, depuis que Emmanuel Macron a supprimé les taxes d'habitation, on a bien vu que c'était des moyens et la perte d'autonomie de nos collectivités. Mm-hmm. Alors c'est vrai que de temps en temps, je me dis, je suis un peu fou, parce que finalement, on va devenir maire d'une collectivité, mais on n'a plus d'argent, on n'a plus de moyens, et en fait, on nous a supprimé aussi tous les revenus des collectivités. Notre ambition, c'est justement de faire différemment que François de Mazières aujourd'hui, c'est d'arriver justement avec un projet de développement économique en fait. C'est comment on recrée de la richesse et c'est le principe de la droite. Moi, j'ai toujours appris que la droite, c'était celle qui crée la richesse pour mieux la redistribuer. C'est pour ça que j'ai pas l'impression de me sentir facho quand je dis que je suis un homme de droite. Mmh. Je me sens vraiment dans cette droite sociale que j'ai aimée avec Christine Boutin, parce que j'ai commencé mon engagement avec Christine Boutin. Mmh. Cette droite sociale qu'on doit soutenir. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. Donc, c'est pas une opposition à François de Mazières, c'est vraiment une autre vue, une autre vision de la politique demain sur un territoire. Moi, je crois que Versailles est une superbe ville. Elle a été effectivement très bien gérée, mais je crois qu'aujourd'hui, elle a besoin de se développer parce que on peut pas attendre pendant des années les revenus de l'État. La preuve, c'est que d'année en année, les dotations de l'État baissent. Je crois qu'aujourd'hui, on doit recréer de la richesse, on doit attirer des entreprises, on doit aider nos commerçants à se développer. Et quand vous regardez finalement les deux villes qui sont à côté de nous, Le Chesnay et Vélizy, ces deux villes qui ont finalement beaucoup plus de moyens que nous et qui arrivent à faire deux fois plus d'investissements que Versailles. Donc en fait, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'attendre le budget de l'État, il faut créer de la richesse et donc il faut demain attirer les entreprises aussi à Versailles, plus d'entreprises. Et là, on va avoir un très très beau projet justement à Satory qui va nous permettre de le faire. Et donc notre chance, c'est justement d'aller chercher ces entreprises et de créer de la richesse sur le territoire. Parce que c'est très bien de dire que, oui, pendant 16 ans, j'ai pas augmenté les impôts. Mais finalement, quand vous comparez...
Les impôts locaux ont augmenté. Hein.
Oui, d'abord, ils ont augmenté, mais effectivement, le pourcentage n'a pas augmenté.
C'est une augmentation versus
des indices, en fait, malheureusement.
Oui, bon, voilà. En tout cas,
mais finalement, quand vous regardez aussi aujourd'hui, c'est que les coûts, en fait, d'écoles et des structures dans Versailles, des associations, est deux fois plus cher que nos villes de Vélizy et du Chesnay. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est très bien, on n'augmente pas les impôts, mais on fait payer plus cher, finalement, tous les services. Ben, moi, demain, c'est effectivement recréer de la richesse pour pouvoir, justement, abaisser ses coûts. Et arriver, comme nos voisins, à faire mieux avec moins d'argent de l'État, en fait.
Et c'est ce qui vous distingue clairement du programme du maire actuel, qu'on n'a pas encore forcément eu l'occasion de découvrir?
Non, mais on a vu ce qui s'est passé pendant ces dernières années. Il y a un manque crucial de développement économique. On n'utilise pas, on ne valorise pas le château de Versailles. On a quand même une pépite sur notre territoire qui est le château de Versailles. Il y a 8 millions et demi de visiteurs qui viennent au château de Versailles.
Par an.
Ces 8 millions et demi, ils ne viennent pas dans la ville. Ça ne rapporte rien à nos commerçants.
Non.
Et alors, c'est vrai que quand vous regardez aujourd'hui, même la rue de la Paroisse à Versailles, qui finalement, on voit
et
les commerçants.
Et
qui est la grande
pas.
Rue commerçante de Versailles. J'ai envie de dire, les commerçants ferment. On a aujourd'hui produits dits chocolatiers qui sont excellents et je vous les recommande.
Je ne sais pas pourquoi,
mais effectivement. Oui. Mais du coup, on n'a plus de magasins attractifs pour sortir les gens du château. Je crois qu'il faut qu'on recrée de l'attractivité dans nos villes, dans nos centres-villes, pour que justement les gens du château viennent aussi chez nous. Et donc, ça va être tout un travail qu'on va entreprendre avec le château pour justement créer des parcours, créer de l'animation dans la ville pour faire sortir les gens du château et venir consommer. Alors, vous allez me dire, oui, mais on était bien à avoir personne dans notre ville.
Mais
d'un autre côté, si on continue comme ça, dans 5 ans, on ira tous faire nos courses, ça va parler d'eux.
Et puis les touristes du monde entier viennent au château, donc ça n'a rien de...
Et d'avoir quelques personnes dans la ville, ça recréera de l'activité, ça permettra à nos commerçants de s'en sortir mieux, parce qu'ils ont aussi des loyers chers, et donc il faut aussi qu'ils puissent aussi faire du chiffre d'affaires. Je crois que c'est ça aussi, c'est attirer du monde pour qu'ils puissent aussi s'en sortir. Et encore une fois, c'est faire en sorte que demain, les Versaillais continuent de faire leurs courses à Versailles, continuent d'aller au restaurant à Versailles, et ne soient pas obligés d'aller faire leurs courses à Parler d'eux, même si je n'ai rien contre Parler d'eux.
Dans une galerie commerciale, pour ne pas faire de publicité à la galerie commerçante. Autre chose sur laquelle je voulais... Deux sujets durant notre temps imparti. D'abord, le sujet de la sécurité. Ce n'est pas forcément un sujet qu'on a envie d'aborder quand on parle de Versailles, qu'on juge comme une ville bourgeoise très sécuritaire ou très bien fréquentée. Est-ce que c'est un sujet qui, quand même, est devenu d'actualité pour que nos auditeurs de Radio Courtoisie se rendent compte aussi de la réalité de l'insécurité en France aujourd'hui?
Oui, clairement. J'ai fait d'ailleurs une vidéo hier sur ce sujet-là. L'insécurité à Versailles arrive effectivement. On la voit. On est sur des parcours. On a dans les Yvelines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a aussi des grandes villes comme Trappes, Les Mureaux ou
Mantes-la-Jolie
qui sont pas loin. Donc il n'y a pas que Versailles dans les Yvelines, vous voyez. Et Versailles est une ville de passage. Donc effectivement, oui, on a de la délinquance à Versailles. Oui, on voit monter les incivilités à Versailles. Et on voit surtout, moi, et c'est le grand dam, c'est les points de deal qui se développent aussi à Versailles. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit très très ferme. La sécurité aujourd'hui est primordiale. Quand on est d'une ville comme Versailles, voilà, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles,
beaucoup de jeunes, et
très sincèrement, on se doit d'être tolérance zéro sur tous ces sujets-là. On n'a pas le droit de regarder et de laisser faire. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai été faire un tour avec quelques personnes de ma liste la semaine dernière dans Versailles. On voit aujourd'hui des points de deal, on voit aujourd'hui des jeunes qui sont dans la rue, on voit des endroits où moi, j'avais une réunion de public hier soir sur Porchefontaine où les gens me disent non, on n'ose plus sortir la nuit, d'abord parce que c'est mal éclairé, mais en plus parce qu'on n'y croise pas forcément des gens bien. Moi, ça, c'est à Versailles, c'est pas possible.
Et c'est assez nouveau. Autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le sujet sur les logements et la loi SRU. C'est quelque chose qui fait partie de votre programme. Alors, on va essayer d'expliquer d'abord, avant d'en parler particulièrement, ce que veut dire cette loi. En fait, c'est l'attribution des logements sociaux. Parce qu'à Versailles, il y a aussi des logements sociaux.
Tout à fait.
Et vous nous direz sur quel pourcentage. Vous pouvez un peu nous détailler ce que cette loi SRU impose comme quota minimum de logements sociaux, avec des pénalités en cas de non-respect. Qui attribue les logements sociaux et comment voyez-vous les choses en tant que future maire de Versailles?
C'est là où je crois que la politique locale se lie aussi à la politique nationale. Très sincèrement, cette loi SRU, c'est quelque chose de, qui demain doit évoluer. Et je crois justement que c'est par la droite qu'on pourra faire évoluer cette loi SRU. Quand on vous oblige à faire 25% de logements sociaux dans une ville comme Versailles, qui a finalement un tiers de château, un tiers d'armée et un tiers de ville, qui n'a pas de foncier, finalement, on crée maintenant, là où on peut, on essaie de créer des logements sociaux. Alors, c'est très bien, mais finalement...
Combien de pourcentage de logements
sociaux? On est à 21-22% aujourd'hui de logements sociaux. Donc, on devrait être à 25.
Donc, on
a 4 millions de pénalités
millions par an.
La ville. Moi, très sincèrement, je préférerais demain utiliser ces 4 millions pour faire du logement pour nos personnes, nos amis handicapés. Je préférerais qu'on fasse des logements pour les personnes âgées, mais je me refuse à vouloir continuer de faire des logements.
Donc la mairie de Versailles a choisi de payer cette pénalité de 4 millions d'euros par an.
Oui, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas de foncier en fait à Versailles.
D'accord.
Alors on va avoir cette magnifique chance d'avoir un magnifique projet à Satory où on va refaire un nouveau quartier. Ça sera un des plus gros projets d'ailleurs d'Île-de-France aujourd'hui, où on va faire jusqu'à 4000 logements et avoir également 210 000 mètres carrés de construction pour accueillir des entreprises. Donc ça, je crois que déjà, c'est une chance pour nous, pour le plan de développement économique. Mais attention aussi, il y a une grande vigilance à avoir sur ces 4 000 logements, parce que c'est pour
sociaux.
Y mettre... Non, 4 000 logements au total, mais ça
D'accord.
représente près de 10 000 nouveaux arrivants à Versailles.
D'accord.
C'est pas neutre. Comme,
10 000 nouveaux arrivants
à Versailles.
D'accord,
voilà.
Mais c'est pas des logements sociaux.
Mais dans ces 4 000 logements, on attend entre 1 200 à près de 1 200 logements sociaux.
On va faire la vraie mixité, alors.
Ça sera la vraie mixité. Moi, je dis aujourd'hui, demain, maire de Versailles, je veux avoir 100% des attributions des logements sociaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand je demande des logements sociaux pour mes pompiers, je ne peux pas les avoir. Quand j'ai une infirmière qui me pleure dans les bras, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, quand j'ai été visiter un hôpital, qui me dit, ça fait 10 ans que je demande à la mairie de Versailles, enfin, et à la préfecture, parce que les logements sociaux sont maintenant attribués aussi, surtout par la préfecture, parce qu'on est une ville carencée.
La préfecture de Paris ?
De Paris, des Yvelines, voilà. Et ouais. C'est incroyable, parce que, en fait, comme on est une ville carencée, Versailles est une ville carencée, c'est la préfecture qui attribue les logements sociaux.
Ah d'accord, sinon, ça ne serait pas le cas.
Sinon, ce serait pas le cas. Sinon, Versailles peut avoir des attributions, mais elle n'a jamais tout, hein, parce que
donc
la préfecture se garde.
On reprendrait la main, en fait.
Exactement. La préfecture se garde aussi, enfin, l'État, hein, on va dire, quand c'est la préfecture, ouais. C'est l'État, se garde aussi des logements. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la loi SRU, son prioritaire, c'est ce qu'on appelle les droits opposables au logement, les DALO. Et donc, c'est tous les étrangers. Vous êtes étranger, vous arrivez en France, vous avez le droit à un logement. Mais par contre, moi, mon infirmière qui travaille depuis 10 ans à l'hôpital, elle fait 2 heures de route le matin, 2 heures de route le soir, enfin, de route
avec
ou de transport.
Sont pas
avec les journées, et après on s'étonne qu'il y ait de la santéisme, qu'il y ait des gens qui soient désagréables et compagnie dans nos hôpitaux.
Là, c'est une aberration.
C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Et que ne puisse pas. Moi, j'ai jamais pu, en 10 ans, je vous assure, j'ai jamais pu mettre un pompier, qui m'ont demandé plusieurs fois, un pompier dans les logements sociaux à Versailles. Pas plus que des infirmières, pas plus que des gens qui travaillent à Versailles, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer aussi un logement. Et pourquoi eux n'ont pas le droit d'habiter à Versailles ? Enfin, vous voyez, il y a un moment où il faut reprioriser. Et moi, demain, maire de Versailles, je reprioriserai.
Vous aurez le pouvoir de le faire.
Alors, j'aurai le pouvoir si on a demain un président de droite, très sincèrement. Parce que je pense pas qu'Emmanuel Macron ou son successeur, demain, change cette loi SRU. Mais très sincèrement, à droite, on a bien compris que cette loi SRU était pas une solution.
Et vos anciens petits copains du LR aussi, ils ont compris ça?
Je pense qu'ils ont compris, mais on en parle depuis longtemps de ce problème de loi SRU. Il y a un moment où il faut aussi pouvoir aider les gens qui travaillent chez nous. On se plaint parce qu'il n'y a pas assez d'emplois ou que les gens démissionnent. Enfin, on a des qualités de travail qui sont finalement horribles. Et on privilégie finalement des gens qui ne travaillent pas.
Et
qui arrivent en plus de l'étranger. Donc, il y a un moment, je pense qu'il faut comprendre aussi qu'il y a un moment, les gens votent à droite.
Mais on n'en parle pas beaucoup de ça.
Mais bien sûr.
J'ai tenu à vous en parler parce que cette loi SRU, on n'en parle pas beaucoup.
Mais bien sûr, mais c'est un vrai sujet demain. D'abord, dans là aussi, la constitution de notre ville. Parce que si vous imaginez-vous demain avec 1200 personnes étrangères qui débarquent sur le plateau de Satory, ça va changer la population. Mm-hmm. Ça va changer. On le voit bien d'ailleurs dans d'autres communes, comment ça se passe. Eh bien, moi, je crois qu'on veut garder cette identité à Versailles. Pour moi, vous savez, l'identité de la famille à Versailles, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Eh bien, moi, c'est la fierté de Versailles, très sincèrement. Et je voudrais que demain, qu'on puisse préserver cette qualité de vie et cette qualité aussi, cette identité de la famille à Versailles.
Eh bien écoutez, Olivier Delaferre, vous étiez notre candidat ce midi. Vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs de Radio Courtoisie, candidat aux élections municipales sous l'étiquette UDR à la mairie de Versailles au mois de mars. Vous vous inscrivez dans un moment un peu particulier de la vie politique française, une recomposition de la droite, des alliances nouvelles, des débats parfois vifs et puis au-delà des étiquettes, j'espère que ce qui comptera pour les Versaillais, ce sont des réponses concrètes, vous en avez déjà apporté certaines et je vous en remercie. Les municipales, ça reste d'abord une élection de proximité et ce sont les électeurs qui trancheront en mars 2026 sur la vision qu'ils souhaitent pour leur ville. Vous nous avez éclairé. Merci beaucoup Olivier Delaferre.
Merci madame.
Et merci aux éditeurs de Radio Courtoisie, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. À bientôt.
D'entendre le libre journal de la liberté de penser dirigé par Clara Schneider, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 11 février 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.